7h15, bon ben c'est la journée d'élection et ce matin tu fais une espèce de survol de l'impact sur notre portefeuille selon les promesses qui ont été faites.
Oui, et première des choses, il faut comprendre qu'au Québec, on est désavantagé un petit peu au niveau fiscal. Parce que si vous étiez résident du Québec au 31 décembre, puis que vous n'avez pas exploité d'entreprise, vous avez droit à un abattement de 16,5% de l'impôt fédéral. En somme, on réduit notre impôt fédéral parce qu'on a un impôt provincial qui compense. Alors, nous, quand on se fait promettre une réduction d'impôt, faut savoir qu'elle est un petit peu moins grande. Je te donne un exemple ce matin. Bon, les conservateurs nous disent, eux, sur la première tranche d'imposition, ils nous promettent sur quelques années de réduire de 15% à 13,75% le taux d'imposition. Donc, ça va aider relativement tout le monde dès que vous gagnez jusqu'à 47 630 $. Si vous gagnez moins, vous n'allez pas avoir la totale la réduction, mais vous allez quand même avoir une bonne partie. Les libéraux, eux, c'est l'inverse. Ils disent, à la place, on va monter le montant personnel de base. C'est-à-dire que le montant à partir duquel on ne paie pas d'impôts, on va l'augmenter progressivement jusqu'en 2023. Et donc, que ce soit les libéraux ou les conservateurs qui gagnent, techniquement, Paul, je t'annonce une bonne nouvelle, j'espère que tu es prêt, on va payer moins d'impôts. Hein? Tu es content?
Oui.
Écoute, il y a le NPD, si jamais ils sont élus, là... On dit, en fait, qu'ils vont augmenter le niveau d'imposition le plus élevé. C'est-à-dire que la tranche à 33% d'imposition va tomber à 35%. Ce qui est quand même, qui commence à faire beaucoup parce que ça, en 2016, les libéraux l'avaient déjà augmenté, hein, de 29% à 33%. Pour le gain en capital, les libéraux et le Parti conservateur ont dit, on va rien faire. L'NPD dit, ah, il a déjà été à 75% le taux d'inclusion du gain en capital. C'est-à-dire, quand vous vendez quelque chose qui n'est pas en REER ou en CELI, comme un immeuble à revenus, par exemple, dans le moment, votre gain est imposé seulement sur 50% du gain. Eh bien, il voudrait monter ça à 75%, comme ça a déjà été le cas, ce que les libéraux et les conservateurs ne proposent pas pour l'instant. Bon, évidemment, là, Paul, on a une série de crédits d'impôt offerts par différents partis.
Mais ça, là, le principe général, là, pour avoir un crédit d'impôt, il faut que tu en payes.
Ça dépend. Parce qu'il y a deux types de crédits d'impôt.
Okay.
Tu as le crédit d'impôt qui est remboursable et tu as le crédit d'impôt non remboursable. Alors, quand on offre des crédits d'impôt remboursables, c'est une bonne allusion, Paul, parce que souvent, on fait pas la distinction, c'est que tu vas te faire rembourser peu importe que tu paies de l'impôt ou non, tandis que quand il est non remboursable, faut que tu payes l'impôt. T'as raison. Donc, je te donne un exemple. Les conservateurs disent, on va ramener les fameux crédits de conditions physiques des enfants. Donc, si, par exemple, t'as pour 1 000 $ de dépenses d'activité sportive, on va donner un 15% de crédit d'impôt qui va te donner, le choix d'avoir jusqu'à 150 $, dans le fond, le droit de récupérer jusqu'à 150 $. Même chose pour le crédit des arts, hein. Si jamais ton enfant fait une activité artistique, il va avoir 15% sur un maximum de 500 $ et ce sera remboursable. Donc, en somme, tu pourras recevoir 75 $ de remboursement si tu dépenses 500 $. Même chose avec les transports en commun. On veut ramener ça, mais les libéraux, eux, te proposent en fait des crédits plus pour qui étaient déjà en phase avant les élections, c'est-à-dire crédit d'impôt pour la formation. Les libéraux ont proposé une espèce de formule qu'à partir de 2020, on va tous cumuler un 250 $ par année de potentiel de crédit de formation. Et année après année, on va comme mettre ça dans un compte, si tu veux. Et lorsqu'on va avoir besoin de faire une formation, ben 50% du droit de scolarité va pouvoir être payé avec ce 250 $-là cumulé par année. Même chose, les libéraux nous proposent aussi un crédit d'impôt pour l'abonnement numérique, c'est-à-dire si on s'abonne, par exemple, à un quotidien numérique, on pourrait recevoir jusqu'à 15% de remboursement avec nos impôts. Mais bon, Paul, les crédits d'impôt, c'est une chose qui est très, très, très discutée au niveau de la fiscalité. Sais-tu pourquoi? Parce que des fois, c'est efficace ou non. Je te donne un exemple. Si tu prends le transport en commun, c'est parce que financièrement, t'es logiquement économique brillant, OK? Parce que techniquement, c'est l'affaire la moins chère, c'est payé par tout le monde, puis t'en payes une fraction du prix. Si je te donne un crédit d'impôt, est-ce que le montant va être suffisant pour changer ta décision? Souvent, la réponse, c'est non. Et d'ailleurs, c'est ce que la commission Godbout avait fait. Analyser crédit par crédit et se demander, coudonc, on est-tu en train de faire des crédits pour acheter des votes ou on fait des crédits pour avoir des mesures qui sont fiscalement intéressantes et qui ont un impact réel sur la vie des gens? Donc, ça, c'est intéressant. Mais bon, Paul, la bonne nouvelle, c'est que demain, on va avoir moins d'impôts à payer techniquement au cours des prochaines années.
En principe.
En principe.
En principe. Un petit mot sur les logements sociaux, là, parce qu'on veut que les entrepreneurs qui font de la construction, donc privée à Montréal, intègrent dans leurs projets des logements sociaux.
Avec des immeubles de 5 logements et plus. Bon, là, Paul s'est soulevé tantôt. Qui va payer la facture? Évidemment, si un promoteur est obligé de construire des immeubles qui sont sociaux, si tu veux, veut pas, ceux qui payent le condo à côté vont payer plus cher pour compenser le coût.
C'est
sûr. Il y a aussi toute une notion de frustration de dire « Mon voisin d'en face est subventionné pour vivre là pendant que moi, je paye le gros prix pour vivre exactement sur la même rue. » Ben, ça va peut-être, par exemple, ramener un attrait pour les unités usagées. Parce que si les nouvelles unités sont plus chères à cause de la prime pour développer le logement social, ça va permettre aux anciennes unités, parfois plus grandes pour le même prix, de trouver preneur. Évidemment, l'argument de la mixité sociale est important. Parce que si t'as bien beau avoir un condo à 500 000 puis entendre ta gang qui sont capables de payer des condos à 500 000, si tu vas avoir quelqu'un qui travaille à l'épicerie à côté de chez vous à un moment donné, faut qu'il puisse vivre pas trop loin ou à une distance raisonnable. Et finalement, le gros problème, c'est vraiment au niveau de l'entretien. Dans 5, 10, 15, 20 ans, comment va être généré le budget ou l'enveloppe budgétaire plutôt pour payer l'amélioration ou l'entretien de ces logements-là? C'est à suivre.
Merci, monsieur. On se parle demain. Il est 7h21.